Place à la question du jour. Depuis dimanche dernier, les condamnations à mort de djihadistes français se succèdent en Irak. Hier, c'est un 8e combattant français de l'État islamique qui a été condamné à la peine capitale. Au total, 12 individus avaient été remis par les Kurdes syriens à l'État irakien fin janvier. Les 4 derniers doivent être jugés dans les prochains jours. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré cette semaine que le gouvernement, je cite, multipliait les démarches pour éviter la peine de mort à ces Français. Alors le gouvernement peut-il, doit-il intervenir? Bonjour Olivier de Frouville.
Bonjour Fabien Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en droit international à l'université Panthéon Assas. Au-delà des discours du ministre des Affaires étrangères, que fait réellement l'État français, le gouvernement, pour éviter la peine de mort? Est-ce qu'il est véritablement actif pour leur éviter la peine capitale ou c'est de la pure communication?
Alors écoutez, c'est ce qu'ils disent, qu'ils font des choses. Ils expliquent qu'ils mettent à disposition des personnes qui sont actuellement en procès en Irak une assistance consulaire et qu'ils font pression, en tout cas qu'ils mènent des démarches diplomatiques pour expliquer à l'Irak que la France est opposée à la peine de mort et que par conséquent il conviendrait de commuer les peines de condamnation à mort de ces personnes en peine de prison.
Quel genre de pression? Quels sont les leviers d'action concrètement auprès du gouvernement irakien?
Ce sont des actions diplomatiques. D'abord, bon, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on part à l'étranger et qu'on commet une infraction sur le territoire d'un État étranger, on est justiciable des tribunaux de cet État. L'État d'origine de la personne qui commet l'infraction ne peut pas soustraire cette personne aux tribunaux étrangers. Il n'y a pas de privilège de juridiction en droit international. Ça, c'est vrai pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour n'importe quelle infraction, et pas uniquement pour des personnes qui seront coupables d'infractions terroristes. Donc, à partir de ce moment-là, les moyens de l'État sont nécessairement limités. Il y a un droit d'accès des personnes au poste consulaire, à communiquer avec le poste consulaire, et en général, les États mettent à disposition de leurs ressortissants un certain nombre de services en facilitant l'accès à la défense, en essayant d'améliorer leurs conditions de détention si c'est possible, donc avec une assistance de type humanitaire, en facilitant les contacts avec la famille, par exemple.
Est-ce que vous pensez que l'Irak va appliquer la peine capitale et exécuter ses combattants djihadistes?
Alors, c'est une question. Pour l'instant, ils n'ont pas appliqué la peine capitale aux personnes qui avaient été condamnées jusqu'alors pour terrorisme. Enfin, jusqu'à présent, l'Irak est un pays qui applique la peine de mort. Il n'y a pas de moratoire, ni de fait, ni de droit. Il y a, alors, pour le coup, effectivement, des pressions qui viennent de toutes parts sur l'Irak pour qu'elle déclare un moratoire ou pour à tout le moins, elle applique un moratoire de fait sur la peine de mort. Donc, il est possible, effectivement, qu'elle le fasse, mais rien ne le garantit. Il y a quand même une opinion publique, c'est ce qu'expliquent les autorités irakiennes, une opinion publique qui est très favorable à la peine de mort.
Olivier de Frouville, Jean-Yves Le Drian a précisé hier que les procès de ces djihadistes étaient équitables. C'est le mot qu'il a utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire, équitable? Est-ce que les droits de la défense aujourd'hui sont respectés dans ces tribunaux irakiens ou on est dans une situation de justice un peu expéditive?
Alors, selon les rapports dont on dispose de différentes sources, et en particulier de la part des Nations Unies qui sont présentes à travers leur opération, leur présence dans le pays, les procès ne sont en général, enfin il y a quand même beaucoup de rapports qui tentent à montrer que les procès ne sont pas équitables, c'est-à-dire conformes aux normes internationales en matière notamment de droits de la défense, tribunal indépendant et impartial. Donc on a quand même des préoccupations à cet égard et les descriptions que l'on a des procès qui se sont déroulés ces derniers jours montrent que ce sont des procès effectivement qui sont quand même extrêmement rapides avec une intervention très limitée des droits de la défense.
Ils vont pouvoir faire appel par exemple?
Oui, alors il y a un droit d'appel effectivement, je crois que d'ailleurs il y a une de ces personnes qui a fait appel au moins. Mais enfin, ça ne garantit pas nécessairement l'existence d'un procès équitable.
Ces condamnations, elles relancent le débat sur l'épineuse, très épineuse question du retour des djihadistes étrangers dans leur pays. Tous les Français incarcérés ne seront pas condamnés à la peine de mort et donc leur retour continue de poser des questions. Vous nous rappelez ce que dit peut-être en quelques mots le droit international en la matière sur ce retour des ressortissants français qui sont présents dans les geôles irakiennes et la position peut-être du gouvernement sur cette question?
Il n'y a aucune obligation de la part de l'État français de rapatrier des ressortissants français sur le territoire. Et à partir du moment où ils sont poursuivis en Irak pour des crimes qui ont été commis sur le territoire de l'Irak, ils peuvent éventuellement être jugés en Irak. Alors ils peuvent éventuellement être poursuivis aussi en France pour appartenance à une organisation terroriste, par exemple. Dans ce cas-là, une procédure d'extradition peut éventuellement être mise en place. Mmh. C'est possible que le gouvernement français décide d'ailleurs de... c'est possible dans un certain nombre de cas de ce type de procédure puisse être engagé.
Mais il y a un moment où le gouvernement français envisageait un retour collectif de ces djihadistes, c'est plus du tout d'actualité ?
Non, c'est plus du tout d'actualité. On voit que l'opinion publique française est extrêmement hostile à ces retours. Et donc je pense que le gouvernement ne l'envisage pas. Ils ont visiblement par ailleurs trouvé une solution avec l'Irak qui accepte de juger sur son territoire un certain nombre de ces personnes.
Alors il y a un autre dossier, Olivier de Frouville, derrière tout ça, c'est celui des femmes et des enfants de combattants. Dans le même temps, hier, la France a été exhortée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme à rapatrier sans condition les enfants mineurs de nationalité française, et le défenseur des droits, qui avait été saisi sur cette question fin 2017, Jacques Toubon, a demandé à la France de cesser ces traitements inhumains. Est-ce que la position de la France de traiter au cas par cas, comme c'était la situation jusqu'ici, est-ce que cette position du cas par cas est encore tenable aujourd'hui ?
Non, elle ne paraît pas tenable. Elle n'est pas d'ailleurs conforme aux préconisations des Nations Unies, y compris au sein des instances du Conseil de sécurité qui s'intéresse à ces questions et qui recommande aux États de rapatrier les enfants. Les enfants, effectivement, ne sont pas rendus coupables d'infractions, ils ne sont pas responsables des agissements de leurs parents, et donc ils doivent effectivement être rapatriés et puis réunis avec leur famille lorsqu'ils en ont en France. De ce point de vue-là, je crois que les appels convergents de la part des différentes instances sont tout à fait conformes aux préconisations internationales. La position de la France n'est pas tenable.
La question est de savoir quel effet ça va avoir. Cet avis de la Commission nationale des droits de l'homme, est-ce que ça va forcer le gouvernement à suivre ses recommandations ou c'était pas du tout sûr?
Ça ne peut pas forcer le gouvernement, mais en tout cas, il y a vraiment une convergence de recommandations à cet égard, à la fois de la part des Nations Unies et des instances nationales, et qui est fondée sur des principes à la fois juridiques et moraux, et puis sur une considération des intérêts en présence qui est tout à fait légitime, notamment sur la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un principe juridique qui lie la France. Il y a par ailleurs des recours qui ont été exercés, à la fois sur le plan national et maintenant sur le plan international, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, à ce moment-là, effectivement, si les recours aboutissent, la France devra se conformer à ces recommandations.
Oui, donc c'est plutôt les procédures judiciaires qui pourraient peut-être contraindre la France à reprendre ses enfants. D'ailleurs, je crois que c'est arrivé. En Belgique, il y a eu une procédure judiciaire qui a abouti et qui a forcé l'État belge à accueillir ses enfants.
Oui, mais enfin, il est à espérer que les autorités françaises anticipent ce type de condamnation, puisque il est assez probable qu'elles interviendront, donc c'est peut-être pas la peine de les attendre.
Merci beaucoup, en tout cas, Olivier de Frouville, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur en droit international à l'université Panthéon Assas, et puis directeur du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Merci à vous.
Merci.